13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Vous savez qu'AVS est une émission de santé, alors on va parler de maths ce matin. Et pourquoi est-ce qu'on parle de maths dans AVS aujourd'hui? Bien parce que figurez-vous que les maths c'est bon pour la santé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques, c'est bon pour la santé. Puis c'est également bon pour le cerveau. J'ai invité aujourd'hui la bosse des maths, alors c'est pas de moi, hein. Bonjour Amina Khelil.
Bonjour Philippe.
C'est le journal Le Parisien qui vous a surnommé la bosse des maths. À 30 ans, vous êtes ingénieur de formation, double diplômé du magistère de physique fondamentale de la faculté Paris-Saclay et de l'École nationale supérieure des arts et métiers. Vous êtes professeur de physique, chimie et mathématiques, inventeur d'une méthode défi alpha. Alors qu'est-ce qu'on entend quand on le dit ?
Mais écoutez, en réalité, défi alpha, il y a certaines personnes qui vont entendre le défi. Bon, effectivement, on a un défi à relever. Ensuite, il y a donc le phi et le alpha qui sont deux lettres grecques qu'on utilise assez fréquemment dans les sciences. Mais il y a encore un message codé qu'assez peu de personnes le voient. Eh bien, on peut le lire comme D, donc D-E-S, plus loin phi. Donc, et alpha. Parce que souvent, donc, on parle des mâles alpha. Et là, l'objectif, c'était donc de montrer que les femmes peuvent faire des sciences et que quand elles font des sciences, eh bien, elles le font très bien aussi.
Donc, le mâle alpha, c'est le chef de meute, quand même.
Absolument. Et donc, nous, aujourd'hui, donc, dans la société, dans notre entreprise Défi Alpha, on est aussi une équipe de femmes. Et que je dis souvent, donc, nous sommes des femmes alpha, des filles alpha. Et l'objectif, c'est de continuer à attirer davantage de filles dans les sciences pour que ces jeunes filles deviennent également des filles alpha.
Bon, vous avez créé un centre de soutien scolaire à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Alors vous préférez centre de réussite scientifique.
Absolument.
Et vous avez une plateforme aujourd'hui qui porte votre nom. Mm-hmm. Vous êtes fille d'ouvrier, boursière, vous avez grandi dans le Pas-de-Calais et vous arrivez en Seine-Saint-Denis il y a 12 ans. Et cela, écrivez-vous, ne vous a pas empêché d'être diplômée de l'une des meilleures facultés de son domaine. Et pourtant, vous n'avez pas fait Sciences Po. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait Sciences Po ?
Alors, j'ai toujours été une très bonne élève. C'est-à-dire que sur le papier, j'étais toujours première de la classe, bac mention très bien et tout ça. Et donc, dans mon lycée, dans le Pas-de-Calais, en terminale, notre enseignante, enfin notre prof de maths même, nous parle de la fameuse préparation Sciences Po. Et donc, forcément, moi, en tant que bonne élève, j'envisageais absolument toutes les voies possibles. Hein, donc, médecine, Sciences Po, je ne connaissais pas spécialement, mais je sais que c'était prestigieux. Donc, je me dis, Sciences Po, pourquoi pas ? Et donc, elle m'envoie dans le bureau du directeur. Et donc, j'entre dans ce bureau. Alors, pour information, hein, cette anecdote, je n'en ai parlé pour la première fois que dans mon livre. C'est-à-dire que même à mon époux, j'en ai parlé au moment où j'ai réussi à le mettre à l'écrit sur le papier. Parce que je me suis rendu compte que c'était un choc. Donc voilà, je rentre dans le bureau du proviseur et je dis « Bonjour, monsieur, j'ai entendu parler de la préparation Sciences Po. Je suis une bonne élève. Voilà, j'aimerais avoir plus d'informations. » Et donc, il me regarde. Et sa question, l'échange n'était pas « Qu'est-ce qui t'intéresse dans Sciences Po ? Pourquoi Sciences Po ?» Non, c'était pas ça du tout. Il me regarde et il me dit « Écoutez, mademoiselle, effectivement, je ne doute pas que vous soyez une bonne élève, mais vous savez, à Sciences Po, il y aura surtout des enfants de cadres, des enfants d'avocats, tout ça. » Et donc moi, vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est... Et donc, forcément un moment de blanc et là je sors du bureau en me disant il est quand même sympa hein, le proviseur il veut me protéger quoi, c'est-à-dire qu'il se dit que si moi je vais là-bas avec les non-codes d'une certaine manière je vais me planter, donc il est plutôt sympa quoi. Et donc je sors de ce bureau, je rentre dans mon cours de maths, donc ma prof de maths me dit alors Amina c'est bon, je fais oui j'ai eu toutes les informations que j'avais besoin et voilà, après ce passage, je n'en ai plus jamais parlé du coup pendant 15 ans, jusqu'au moment où donc, j'ai écrit ce bouquin et c'est revenu d'une certaine manière. Et je me suis dit non mais c'est pas normal, hein. C'est juste honteux de m'avoir dit ça à ce moment-là, arriver dans le bureau avec toute l'énergie et de me prendre d'une certaine manière une claque comme ça, alors que je suis quand même une très bonne élève. C'est juste honteux, c'est pas normal. Et aujourd'hui, donc dans ma structure, je me rends compte que j'ai beaucoup d'élèves qui sont confrontés à ce type de discours, donc des petits qui viennent très jeunes, hein, parfois vous savez, au collège. On vient, j'ai dit à mon prof que je voulais être pédiatre, on s'est moqué de moi. J'ai dit à mon prof que je voulais être ingénieur, on s'est moqué de moi. Enfin, mon prof, et moi je trouve ça juste scandaleux. On ne peut pas aujourd'hui briser des jeunes aussitôt, et parfois même plus tard, hein, juste parce qu'effectivement ils ne respectent pas, ils n'ont pas ces codes qui leur permettraient de rentrer dans certaines voies qui sont aujourd'hui des voies d'élite.
Et on sait que effectivement Sciences Po, c'est vraiment pour le Sciences Po, pour le coup, c'est vraiment une école où il y a des codes. Hein.
Mais il faut un effort.
Vraiment, vraiment beaucoup de codes.
Hein. Oui.
Bon.
Beaucoup de codes.
C'est l'entre-soi.
Absolument.
C'est l'entre-soi. C'est voilà. C'est l'élite, l'élite.
Oui, mais
l'élite de la République.
Oui, mais ce que j'admire en ce moment donc dans Sciences Po, c'est qu'il y a quand même de leur côté un effort énorme pour justement attirer et casser cette image de nous ne sommes juste qu'une qu'une école où on prend l'élite.
Il y a des passerelles maintenant.
C'est ça, exactement. Mais faut le saluer. Ça veut dire que faut quand même le saluer. Et voilà.
Pourquoi avoir choisi d'enseigner les maths à des élèves de quartiers défavorisés alors que vous étiez promise à une brillante carrière d'ingénieur ?
Alors, bon,
quand j'ai... Et certainement mieux payé.
Certainement surplus. Donc en fait, bon, moi quand j'ai terminé mes études, donc j'avais 23 ans, j'étais aussi déjà maman de deux enfants. Donc j'ai eu mes deux aînés pendant mes études. Quand j'ai terminé mes études, honnêtement, je me reconnaissais pas du tout dans les métiers qu'on me proposait. Donc j'avais fait des stages dans la recherche, j'avais fait des stages dans l'ingénierie. C'était des stages intéressants, mais c'était pas comme ça que j'envisageais ma vie. Et donc du coup, forcément, grosse remise en question. Et donc j'ai commencé à donner des cours de maths et de physique-chimie. Mais vraiment, sans me dire ce sera mon métier, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est ça que j'ai commencé en donnant des cours de maths et de physique-chimie. Et j'ai commencé en fait à Drancy. J'ai commencé à Drancy parce que j'étais dans le 93. Pour moi, c'était vraiment la voie de facilité. C'est que je n'ai pas choisi le 93. C'était vraiment la voie de facilité. Et puis, mes premiers cours, c'était juste magique. Mais vraiment magique. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il y avait tout dedans. Il y avait la transmission, il y avait l'échange, et puis il y avait aussi le fait de voir mes élèves comprendre. Quand j'ai eu l'impression d'être utile. Et donc, du coup, j'ai continué dans le 93. Mes petits, donc mes élèves, j'appelle mes petits, alors que mes élèves, sont devenus bien plus que juste des élèves. C'est-à-dire que souvent, je dis, je suis un peu comme leur grande sœur. C'est-à-dire que Et aujourd'hui, donc pour rien au monde, je quitterai mon 93 pour enseigner dans d'autres villes, quoi. Et j'ai l'impression que c'est à cet endroit qu'on a en tout cas le plus d'impact.
Mais pourquoi ne pas avoir choisi l'aventure de l'éducation nationale?
Alors, l'éducation nationale, je pense que ça me faisait peur, mais vraiment peur. C'est-à-dire que c'est quand même une sacrée machine, l'éducation nationale. Arriver du haut de mes 23 ans et me dire que je vais aller rentrer dans cette grosse machine, honnêtement, moi, je m'en sentais pas capable. Vraiment, je m'en sentais pas capable. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tiens à le préciser, c'est que pour moi, les enseignants, les profs qui sont debout dans l'éducation nationale, qui se démènent au jour le jour pour que les petits grandissent, pour que les petits progressent dans la bienveillance, pour moi, ce sont des héros. Mais vraiment, ce sont des héros. Et je pense qu'on l'a un peu trop oublié, parce que ce qu'ils font, c'est juste extraordinaire. Moi, personnellement, je ne m'en sentais pas capable. Et puis ensuite, le fait aussi...
Mais aujourd'hui, vous en seriez capable, 10 ans après ?
Alors, en fait, ce qui s'est ensuite passé, c'est que le fait d'être avec mes élèves, dans une sorte de petit cocon, ça m'a aussi permis d'avancer en tout cas sur des questions. J'ai eu le droit, en fait, de me poser des questions que je n'aurais pas pu forcément me poser en étant dans la grosse machine avec des classes de 30. Donc moi, rapidement, ensuite, la question, c'était comment faire pour que mes élèves progressent ? Progresser, ça ne veut pas juste dire avoir des super notes. Progresser, ça veut dire effectivement mieux comprendre, se sentir plus à l'aise, mais c'est aussi gagner confiance en eux. C'est aussi avoir confiance en l'école. C'est aussi avoir confiance en l'avenir et de se dire que tout est possible. Et donc forcément, d'être comme ça, d'avoir cette proximité avec les élèves et les parents, ça m'a permis de me poser des questions que je n'aurais pas pu me poser en étant dans l'éducation nationale.
Est-ce que ça vous fait toujours aussi peur aujourd'hui ? Parce que la question de votre légitimité en tant qu'enseignante, ou alors le fait d'aller dans l'éducation nationale, ça vous obligerait peut-être à utiliser une méthode qui n'est pas la vôtre, et ça, c'est pas c'est pas votre mindset, comme on dit aujourd'hui, c'est pas votre façon de fonctionner.
Alors, je vais vous dire un truc, c'est que aujourd'hui, je suis tellement attachée à cette forme de liberté que j'ai dans la manière d'enseigner. Souvent, je dis, je ne suis pas l'éducation nationale. Et c'est vrai, je ne suis pas l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, donc, j'ai écrit une gamme de livres. Hein, donc, j'ai 7 livres de maths, de la 6e à la terminale. J'ai ma plateforme.
Qui coûte rien du tout. Faut expliquer aux gens que c'est des livres qui sont pas chers.
Mais non, parce que l'objectif pour moi, c'est de rendre ces disciplines, donc rendre même la réussite. Hein, après, peut-être qu'on parlera pourquoi des maths, mais de rendre la réussite financièrement accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas normal. Qu'on ait toujours cette impression que ce soit toujours, entre guillemets, les mieux armés, mieux armés, c'est et financièrement et parfois même par l'environnement, qui réussissent. Donc moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir amener tous ces outils et que ce soit financièrement accessible pour donner vraiment la chance à tout le monde, à tout le monde. Et donc, j'ai le droit, à travers ces outils, d'avoir des codes qui ne sont pas forcément ceux de l'éducation nationale.
Voilà. Vous rentriez pas dans le moule.
Je ne rentre pas dans le moule, mais en même temps, c'est aujourd'hui ce qui fonctionne avec nos élèves. C'est-à-dire que la force de toute la méthode, de tous nos outils, c'est qu'elle s'est construite avec les élèves et avec les parents. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, je m'étais rendu compte qu'il fallait dessiner des escargots pour que les élèves comprennent, on aurait dessiné des escargots. Là, tout ce qui a été mis en place, c'est uniquement par de l'expérience de terrain et non de la théorie. Donc, ça veut dire que ça colle à ce que les élèves font aujourd'hui, en tout cas à leur manière de comprendre, et il faut continuer de rester connecté au terrain, parce que les élèves d'hier, ce ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui, et ce ne seront pas les mêmes demain. Donc du coup, il faut être capable en tout cas de les écouter et de comprendre ce qu'ils ont besoin en tout cas pour avancer et progresser.
Pour comprendre aujourd'hui et quantifier, parce qu'on aime bien quantifier votre expertise, aujourd'hui vous avez vu défiler combien d'élèves?
On doit être à plus de 1000 sur 7 ans, c'est-à-dire que sur 7 ans, plus de 1000. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à aucun moment, donc j'ai commencé, donc maintenant ça fait 7 ans, à aucun moment je suis arrivée en me disant je dois trouver une méthode pour enseigner les maths, mais pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, je faisais ça juste parce que j'aimais ça. Donc, j'étais là, donc, avec mes élèves. Les choses se sont construites, mais vraiment de manière hyper naturelle. Et ça s'est fait, donc, la première phase, en fait, s'est faite sur 5 ans, mais vraiment, en fait, avec cette innocence de se dire, je veux que mes élèves comprennent. Qu'est-ce qu'il faut pour que mes élèves comprennent?
Mais c'était un peu un laboratoire.
Mais maintenant, oui, je me rends compte que c'était un laboratoire. Mais sur le coup, non.
Alors, vous publiez et vous racontez votre histoire, vous décodez votre méthode dans votre premier livre qui s'appelle « Tout le monde peut être bon en maths » chez Marabout. Alors, évidemment, un titre en forme de clin d'œil, mais vous en êtes tout à fait persuadé.
Eh oui.
Que tout le monde peut être bon en maths. Je demande qui réalise l'émission, on n'est pas tout à fait persuadé, mais ça repose sur des croyances, le fait qu'on est soit bon ou pas bon en maths. D'ailleurs, les gens vous disent « Oh, de toute façon, moi, je suis nul en maths ».
Non, mais complètement. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'on est tous capables de mériter la médaille Fields. Pas du tout.
C'est-à-dire qu'est-ce que c'est la médaille Fields?
C'est l'équivalent, on va dire, du prix Nobel de mathématiques. Oui, c'est ça.
Cédric là, par exemple.
Exactement.
Villani, parce que c'est le plus connu qu'on connaisse avec la médaille. Voilà.
Ouais. Donc voilà, je suis pas en train de dire ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, nous sommes tous en mesure de faire au moins même des petits trucs en mathématiques. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui viennent en disant, de toute façon, en fait, il y a comme des cases. C'est-à-dire qu'on est dans un système, on aime bien ranger les gens dans des cases. Donc, il y a le littéraire, et puis il y a le matheux, et puis il y a l'artiste, quoi, grosso modo. Le côté matheux, ceux qui aiment les maths, ceux qui sont bons en maths, mais ils représentent qu'une toute petite partie de la population. Alors que si, moi, sur le millier d'élèves que j'ai suivis, mais vraiment sur le millier d'élèves que j'ai suivis, ceux qui sont réellement en difficulté, ceux qui ne comprennent rien, vraiment, il y en a, mais ils se comptent sur les doigts de la main. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est l'inverse. Ça veut dire que ceux qui comprennent, ils sont 5, et ceux qui ne comprennent pas, ils sont 10 000. Non, c'est l'inverse. Et sur les gens, en fait, qui ne comprennent pas, souvent, ce n'est pas juste lié aux maths, c'est qu'il y a des petits soucis qui vont bien au-delà juste de l'apprentissage des mathématiques. Donc, ce n'est même pas moi qui le dis parce que je veux faire plaisir aux gens. Et puis, non, c'est un fait. C'est-à-dire que tout le monde peut réellement comprendre les maths. C'est une question, du coup, pour moi, donc, de méthode, d'état d'esprit et de travail uniquement.
Oui, et de travail. C'est pas magique, hein. Il n'y a pas une méthode qui fait que vous apprenez la méthode et vous êtes bon en maths. Il y a le travail et la persévérance. Mais ça, les gens l'oublient souvent. Ouais. Allez, on parle des maths ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
On a pris le pari ce matin de parler de maths pendant une heure. J'espère que ça vous barbe pas trop. Non, mais parce que, en fait, il y a beaucoup d'a priori sur les maths. Les gens disent, de toute façon, moi, les maths, je déteste. Est-ce qu'il y a des raisons objectives de détester les maths? Et je pose cette question à mon invité, Amina Khelil, qui vient de publier justement son premier livre, Tout le monde peut être bon en maths, chez Marabout.
Alors, moi, je pense que la raison principale, c'est qu'on a fait des mathématiques une discipline purement scolaire. C'est-à-dire qu'on apprend les maths à l'école, et puis on apprend les maths à travers d'abord la numération, et puis on apprend à faire des additions, et puis il y a les fameux problèmes de maths. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression que les maths n'existent uniquement qu'à l'école. Et puis en plus de ça, ben, qui dit école dit aussi notes. Donc ça veut dire qu'après on va évaluer notre niveau en maths, parce qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise note. Si on a une bonne note, c'est que ça va. Si on a une mauvaise note, bon, ben, c'est qu'on est nul en maths. Alors que pas du tout, c'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, et c'est aussi l'objet de ce livre, c'est que les mathématiques sont vraiment partout. Sont pas vraiment partout, pas uniquement, c'est-à-dire que oui, on va en avoir besoin, certains vous diront quand je vais chez le boulanger, il y a le changement de monnaie, enfin tout ça, enfin il y a l'échange de... Ouais, effectivement, il y a peut-être des maths partout, mais ça va bien au-delà. Ça veut dire que aujourd'hui, parfois même dans votre manière de raisonner, votre manière de voir un problème de la vie courante, de la vie quotidienne, qui va bien au-delà juste d'un problème de maths, eh bien finalement, on est en position d'utiliser un raisonnement mathématique. Et donc pour moi, c'est ça qui importe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues d'être mauvaises en maths parce qu'elles avaient des sales notes à l'école, mais que dans le fond, quand on échange avec elles, quand on voit la manière dont elles raisonnent, on se dit mais c'est impossible quoi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il y a cette manière, on va dire, de raisonner, d'être capable d'identifier la problématique, d'être capable d'avoir ce raisonnement qui va amener à une conclusion. Et pour moi, eh bien, ça reste des mathématiques, même si on est sur un problème qui n'a rien à voir avec les maths.
C'est quand on prend les petits enfants dyslexiques, souvent ils ont une façon de trouver le résultat, mais ils n'ont pas le même raisonnement que les autres, et ça les maîtres sanctionnent, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver le résultat si vous n'avez pas suivi le bon raisonnement que vous expliquez. Oui, non, ils ont une façon de faire des divisions qui est vraiment propre à eux et que, voilà, qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça.
Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Par exemple, moi, j'ai mon fils qui est en CE2. Ça fait un an, j'essaye de comprendre comment il fait les soustractions. Je n'arrive pas à comprendre comment il fait les soustractions.
Ça m'étonne à lui, ouais.
Non, j'y arrive pas. Mais dans le fond, ce n'est pas grave. Dans le fond, c'est pas grave. À partir du moment où lui, il comprend son raisonnement, qu'il me l'explique, je le vois, qu'il donne beaucoup d'énergie pour m'expliquer que pour lui, c'est évident, mais c'est pas grave. Et en fait, ça aussi, moi, je trouve ça dommage. C'est-à-dire que ce qui est beau dans les mathématiques, parfois, c'est pas uniquement le résultat. C'est vraiment la démarche. Parce que finalement, ce qui va rester, et qui va rester donc même dans la vie, ça va être effectivement cette démarche. Le résultat, parfois, excusez-moi, mais on n'en a rien à faire, quoi. C'est-à-dire que... Et aujourd'hui, il y a certains enseignants qui vont pas accepter d'autres démarches. Alors que pas du tout. Finalement, dans un problème, il y a autant de possibilités que de personnes. Et ce qui va importer, ça va être est-ce que cette personne a compris ce qu'il fallait faire ? Est-ce que cette personne a effectivement cherché des solutions ? Est-ce que cette personne a proposé des solutions ? Parce que proposer des solutions, c'est aussi important parfois que juste d'avoir le bon résultat.
Les maths ont la réputation d'être la matière la plus difficile, vrai ou faux ?
C'est complètement vrai. C'est complètement vrai.
C'est vrai que c'est la matière la plus difficile ou que de la réputation ?
C'est vrai pour la réputation.
Ouais.
C'est vrai pour la réputation et ça se voit dans les chiffres, c'est-à-dire qu'en France, on est les champions du monde, on va dire, en cours particulier. Hein. Donc les parents ont compris qu'il y avait un problème parfois et donc il fallait donner donc, des cours particuliers. Et en pole position, on a les mathématiques. Donc c'est-à-dire que oui, pour beaucoup de personnes, les maths, c'est la matière la plus difficile. Maintenant, est-ce que c'est réellement la matière la plus difficile à comprendre ? Moi, à mon sens, je ne trouve pas. Et je ne dis pas ça parce que j'étais plutôt douée en maths. Non, pas du tout. C'est juste que, par contre, j'étais quelqu'un qui travaillait énormément. Je travaillais énormément, je cherchais à comprendre, je cherchais à trouver donc les méthodes que parfois on ne m'enseignait pas forcément à l'école. Donc, il fallait que j'aille trouver par moi-même les méthodes qui pouvaient fonctionner. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est aussi une discipline qui est complètement objective. Prenons une copie de philo, prenons une copie de mathématiques. Okay. On a tous eu cette idée où voilà, notre copie de philo, elle vaut 18 avec un prof, et puis avec un autre prof, elle vaut 5. Bon, super. En mathématiques, c'est juste impossible. une copie qui vaut 18 avec un prof, bon, elle va peut-être valoir 16,5 parce que l'autre prof, il est plus exigeant dans la note. Enfin, non, mais au final, voilà. Et donc, pour ça, je trouve que les mathématiques sont juste extraordinaires et que d'un point de vue purement scolaire, c'est certainement aussi la discipline qui, pour moi, hein, permet en tout cas d'avancer hein, vers une forme aussi d'égalité des chances.
Et ça, c'est important.
Super important.
C'est-à-dire que finalement, les matières littéraires, vous parliez de la philo, ce ne sont, sont pas des matières égalitaires.
C'est pas, en fait, si vous voulez, c'est que... c'est pas que c'est pas égalitaire, c'est pas que c'est que aujourd'hui les matières prenons voilà, je vous parlais de la copie de philo. La copie de philo, ça demande quand même une forme de bagage culturel qui est pas forcément enseigné à l'école et qui va aller plus sur la dimension environnement où l'élève grandit quoi. Donc ça c'est le premier. Et ça malheureusement, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fonction de son environnement, bon ben on part avec des petits boulets ou pas. Alors que sur la copie de maths, il va y avoir toujours cette question d'environnement qui va être là. Mais en fait, le gap à passer pour les mathématiques, enfin pour les sciences d'une manière générale, il est quand même plus petit. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important. Et c'est important aussi parce que vous savez, quand en réalité on est les fameuses filières d'élite, on va dire. Hein, pour moi, il y en a trois grandes. Hein. Il y en a d'autres, mais il y en a trois grandes. On a grosso modo les écoles d'ingénieurs, on va avoir donc les écoles de commerce et puis on va avoir donc médecine. Ok, les écoles de commerce coûtent une fortune. Et on a énormément de ouais, non mais
c'est au-delà de 10 000 euros l'année, bon, et plus tout ce qui va autour, le voyage à l'étranger. Enfin, je sais pas comment font les parents aujourd'hui pour mettre 30 000 euros par an sur une école de commerce.
Donc ouais, et donc forcément, ça veut dire que d'emblée, voilà, si on est un petit où les parents peuvent pas supporter ça, c'est-à-dire beaucoup d'enfants et pas que les enfants des quartiers ou les non, c'est vraiment ça représente.
C'est un budget, il faut le dire. Ouais.
Ensuite, eh bien, il va y avoir effectivement donc, tout ce qui est école d'ingénieurs et donc médecine. Et ce sont donc des deux filières extraordinaires. Mais en plus, ce qui est beau, c'est que c'est des filières qui sont financièrement ultra accessibles. Par exemple, les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, hein, les meilleures écoles d'ingénieurs sont publiques. Donc ça veut dire et donc ce que moi je veux c'est effectivement ça, c'est de dire bon et eh ben écoutez voilà, il y a un moment donné si vous voulez être en position de choisir une voie d'orientation, vous ne pouvez pas négliger les maths et les sciences d'une manière générale, dont les mathématiques. Et comme la sélection aujourd'hui elle se fait par les mathématiques.
Mais toujours, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la sélection se fait toujours par les maths.
Et c'est
pourquoi,
pas moi.
Pourquoi les maths?
Alors ça déjà, enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette idée. Mais c'est pas moi hein, qui le décrète. Hein. C'est-à-dire que c'est les faits. C'est-à-dire que la sélection se fait par les mathématiques. Encore une fois, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Non, c'est vraiment comme ça. Et pourquoi, honnêtement, alors moi j'aurais envie de peut-être que l'éducation nationale pourra nous donner un peu plus d'éléments. Mais pour moi, je pense qu'effectivement la sélection continue de se faire par les mathématiques parce que la force des mathématiques, c'est qu'on est capable, on va dire, d'une certaine manière, de trouver des solutions. C'est-à-dire que ce que permet les sciences, ce que permet, c'est vraiment d'être capable d'identifier une problématique et de trouver une solution. C'est-à-dire que, et dans la vie, que ce soit personnel ou même professionnel, en réalité, on est constamment face à des problèmes et l'objectif, c'est de trouver des solutions. Et donc, les mathématiques, pour moi, je dis qu'elles offrent finalement un terrain de jeu qui n'est pas dangereux. Hein. C'est-à-dire que si on prend la mauvaise décision, on ne prend pas le risque d'avoir l'huissier de justice qui vient taper à notre porte, pas du tout. Donc, du coup, c'est un super terrain de jeu pour apprendre d'une certaine manière à se modeler pour aller vers ce cheminement qui va effectivement nous permettre à la fin de trouver des solutions, peu importe la discipline.
Mais ça vous paraît donc sensé que la sélection passe par les maths?
Alors moi je trouve pas ça scandaleux, c'est pas voilà.
Voilà, finalement, quelqu'un qui peut réussir, c'est quelqu'un qui est bon en maths, c'est ça que ça veut dire.
Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans quelqu'un qui est bon en maths. Le problème, il est là, c'est-à-dire que la difficulté, c'est comment on va qualifier quelqu'un qui est bon en maths. Parce qu'aujourd'hui, dans notre système scolaire, hein, on va qualifier une personne qui est bonne en maths uniquement avec ses notes. Et donc forcément, on en perd quelques-uns entre-temps. Mais donc dans le fond, se dire qu'il y a les mathématiques qui effectivement hein, sont nous aident en tout cas dans la fin, permettent d'une certaine manière d'identifier les personnes qui vont peut-être être capables d'avoir un raisonnement logiques, organisées, qui sont aussi capables d'avoir, enfin, qui ont développé une bonne capacité donc de pensée critique et compagnie. Dans le fond, ouais, je trouve ça bien.
Alors, plusieurs idées reçues. Alors, il y en a deux que j'aimerais vous faire commenter. C'est les maths, c'est héréditaire, donc il y a des familles de matheux. Et deux, les garçons sont meilleurs en maths que les filles.
Ouais, ça, c'est deux belles idées reçues, qui sont effectivement juste des idées reçues. On a effectivement l'impression que dans les mathématiques, il y a une forme de génétique qui entre en jeu, alors que pas du tout. Pas du tout.
Il n'y a pas des cerveaux de matheux qui se transmettent de génération
en
génération.
Pas du tout. Et puis, il n'y a même pas de cerveau de matheux. Ça veut dire que, justement, les mathématiques, ça, c'est un terrain de jeu. Donc, mettez un élève devant un problème de maths. Alors, ouais, peut-être qu'au début, il n'y arrivera pas. Mais montrez-lui comment faire. Montrez-lui comment faire et forcément, il va y avoir des connexions qui se feront au fur et à mesure. Alors, peut-être qu'au début, il saura faire un truc qui, pour vous, vous paraîtra évident. Mais en fait, c'est les petits pas qui va pouvoir... c'est ces petites étapes dans sa progression qui vont ensuite le permettre de comprendre et de voir ce qui se passe dans les mathématiques. Donc non, c'est... Et moi, ce qui est marrant, c'est que oui, on a beaucoup de parents qui viennent en nous disant « Bon, bah, moi, je suis nul en maths, mon fils, il est nul en maths, tout le monde est nul en maths. » Et puis, on arrive à faire en sorte que le petit est plus nul en maths. Bah tiens, c'est marrant.
On transmet sa nullité en maths, en fait. Ou alors le rapport qu'on avait soi-même élève en maths.
C'est plutôt ça. Ouais. Ça veut dire que forcément, en tant que parents, nos enfants sont des éponges. Donc, et pour moi, je dis souvent qu'en tant que parents, pour nos enfants, on est le meilleur exemple. Donc quand l'enfant, il arrive et qu'il voit bien que ses parents, son père, sa mère étaient plutôt pas super bons en maths, il arrive et d'emblée va se dire « Non, mais de toute façon, mon père, il est nul, ma mère, elle est nulle, et moi, je suis nul. » Et le pire, c'est que le parent, il va trouver ça presque normal. C'est-à-dire qu'il se dit « Bon, comme moi, j'étais nul en maths, je peux pas attendre de lui qu'il soit extraordinaire, quoi. » Et donc forcément, ce petit équilibre super instable m'a fait que oui, il y a cette croyance et donc le petit il part en se disant je suis nul en maths.
Donc chez nous on est nul en maths.
Ouais.
Alors pour les filles, on a constaté que plus on montait dans les niveaux et des filières scientifiques, les filles disparaissaient. Donc est-ce que ça veut dire que les filles sont moins bonnes en maths que les garçons?
Alors ça, pas du tout aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, on a réussi le pari, puisque qu'on s'appelle quand même défi alpha, on a réussi le pari à ce que dans la structure, on ait toujours un poil plus de filles que de garçons. Et les filles sont souvent bien meilleures que les garçons. Elles sont bien meilleures parce que il y a tout en fait, c'est-à-dire qu'il y a souvent cette persévérance dans le travail, il y a cette maturité, quand elles viennent faire des maths, elles savent pourquoi elles sont là. Donc forcément, je veux dire, et je le dis assez souvent, une fois il y a une prof qui est arrivée et qui m'a dit sont extraordinaires quoi les filles qui sont ici. Souvent je dis ce sont des missiles quand elles s'y mettent, mais effectivement, donc non, pour la première question c'est non, les filles ne sont pas plus mauvaise que les garçons en maths. Et je pense, moi, personnellement, bien au contraire. Mais on est tellement ancrés dans ce stéréotype, eh bien que les filles sont quand même mieux dans des disciplines telles que la santé, le social, voilà. Et donc forcément, Et donc forcément, à force de véhiculer ce type de croyance, au moment de choisir, au moment où elles ont le choix entre choisir les sciences et choisir ces fameux métiers qui sont plutôt pour elles, elles vont choisir ces métiers qui sont pour elles. Il y en a beaucoup qui n'osent même pas y penser. C'est-à-dire que, vous voyez, des fois, j'ai mes élèves qui arrivent qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elles osent, quand on leur dit pourquoi pas ingénieur, ça vient, j'ai le droit de croire que je peux être ingénieur? Comme si, en fait, c'était...
Le nom est masculin.
Ouais. Le nom est masculin.
Ouais, donc, je sais pas quelle est la forme féminine.
On met un E.
Ouais, c'est ça.
Mais
ça s'entend pas. On l'entend pas. Mais c'est vrai que ça fait partie des idées reçues. Je rappelle que vous publiez, et vous venez nous en parler ce matin, votre premier livre. Voilà, tout le monde peut être bon en maths. Et quand on vous écoute, évidemment, on vous croit chez Marabout. Et on parle des maths. Et alors, on verra comment vous avez élaboré votre méthode ce matin. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
On a fait un pari ce matin, on va parler de maths pendant une heure. Vous l'avez vu, c'est passionnant, en tout cas quand c'est Amina Khalil qui en parle. Hein. Je rappelle que vous avez alors créé votre propre centre de formation, hein, ça s'appelle Défi Alpha. Vous avez une plateforme en ligne également à laquelle on peut s'abonner et vous publiez. Alors il y a des fiches très importantes, les fiches, on verra comment vous avez élaboré ces fiches comme outil pédagogique et vous êtes là pour nous parler de votre premier livre ce matin qui s'appelle « Tout le monde peut être bon en maths chez Marabout ». La première chose à laquelle vous vous êtes attelé quand vous avez commencé ce chantier de trouver une pédagogie pour enseigner les maths, vous êtes penché sur la question du vocabulaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un verbiage qui est propre aux maths que les gens ne comprendraient pas et le fait que d'utiliser d'autres mots, ça les rendrait plus faciles ?
Alors si vous voulez, dans les mathématiques, pour moi, il y a deux mondes. Il y a vraiment le monde du formalisme, donc les maths officielles, et puis il va y avoir aussi l'autre monde qui est davantage oral, c'est-à-dire que on va parler, on va expliquer les maths dans un langage qui va être oral. Très souvent, ce monde du langage oral, donc c'est-à-dire vraiment comment on comprend les mathématiques, eh bien on l'utilise. On l'utilise pas parce que, en toute honnêteté, c'est pas forcément très joli. C'est vrai, c'est pas très beau. Alors que le formalisme, forcément, ça donne un côté qui est... même si, attention, hein, le formalisme est fondamental en mathématiques. Je dis pas qu'il faut pas l'avoir. Mais du coup, aujourd'hui, dans le système, il n'y a de la place uniquement pour le monde du formalisme.
C'est-à-dire que soit tu captes le langage, hein, soit tu le captes pas.
Sauf qu'en réalité, le langage officiel, il y a très peu de personnes, en tout cas, qui le captent. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que le langage officiel, il y a très peu de personnes qui le captent. Vous savez, moi, parfois, quand je lis une nouvelle définition ou n'importe quoi en mathématiques, je dois la lire, mais au moins 20 fois, à relire la même phrase. Et après, je me dis, mais purée, mais c'est ça qu'il voulait dire, en fait. C'est ça qu'il voulait dire, en fait. Eh bien, moi, aujourd'hui, je l'utilise, mais de manière complètement décomplexée. Et au-delà de juste le dire, je l'écris. Et je l'écris à travers donc, les fameux livres, là, mes fiches de maths. Pourquoi ? Parce que l'oral, on a tendance parfois à l'oublier. Donc quand je vais donner cette explication orale à mon élève, il aura super bien compris sur le coup et donc il va pouvoir faire ses exercices. Mais une fois qu'il rentre à la maison, il va se dire « Attends, Amina, elle m'a expliqué quelque chose, je ne me souviens plus ». Et comme il n'y a pas cette trace écrite, puisque c'est juste dans le monde de l'oral, du coup, il va être bloqué. Et en regardant... Donc voilà, c'est-à-dire que nous, dans ces livres, donc on ose parler, mais aussi on ose du coup l'écrire. Parler les maths dans un langage qui est courant, un langage que tout le monde peut comprendre. Et puis après, une fois que la compréhension est là, on passe au formalisme. Parce que oui, en maths, il y a des codes, il y a une manière d'écrire. C'est aussi ce qui rend les maths finalement universelles. Ouais. Et oui, et donc s'il n'y a pas ce formalisme, on ne peut pas communiquer d'une certaine manière en maths, avec les maths.
Alors vous, la base de la méthode, c'est une fiche, une notion.
Oui.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, il y a deux phrases qui pour moi ont été fondamentales et que 99,9% des élèves me disent et que nos nouveaux élèves nous disent. La première, c'est « je comprends ce qui se passe en classe, enfin je comprends plus ou moins mon cours, je l'apprends par cœur, mais je suis incapable de faire les exercices. » Pour moi, passer des heures en classe, à prendre un cours qui ne nous permet pas de faire des exercices, c'est qu'il y a un problème quelque part. La deuxième phrase, c'est, qui est la pire, c'est quand un élève arrive, je lui dis, voilà, vous avez travaillé sur quoi aujourd'hui ? On a travaillé sur le développement. Ça a été, j'ai rien compris. Je dis, non, tu ne peux pas ne rien avoir compris. Il y a forcément des petits trucs que tu as pigés, quoi. Non, j'ai rien compris. Pourquoi ? Parce que lui, il voit son chapitre comme une masse d'informations et il n'arrive pas à s'y retrouver. Et donc, c'est la raison pour laquelle, plutôt que de raisonner en gros chapitres avec plein de notions, c'est qu'on va dire, sur le chapitre sur le développement, tu vas avoir la simple distributivité. On est parti, je vais t'expliquer donc à partir de cette fiche ce qu'est la simple distributivité, mais uniquement en partant d'un exemple concret.
Je ferais bien de la lire, peut-être qu'il y en a même autour de nous qui ferait bien de la lire. La simple distributivité.
Oui, on y est ? Ouais, ça marche ?
Bon, on va la lire.
Donc voilà, et donc on part d'un exemple concret pour que en fait l'élève voit tout de suite de quoi on parle. On n'est pas dans la théorie. Non, on part d'un exemple concret. Et puis on va expliquer uniquement cette notion. Ça ne doit pas durer longtemps. On ne va pas sur un monologue qui dure 10 minutes parce que honnêtement, on a tous vécu ce cours de maths où au bout de 10 minutes, on va dans nos pensées et puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire chez nous en rentrant ce soir. Non, là, c'est juste 10 minutes pour capter son attention. Et ensuite, tout de suite après avoir expliqué, l'élève fait. C'est-à-dire qu'il va mettre en application, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste entendre, comprendre, c'est qu'il va faire. En faisant, on va pouvoir identifier rapidement ses difficultés, mais aussi ça va permettre de développer les bons automatismes. En maths, il faut acquérir des automatismes. Pour moi, ces automatismes, ça devient un peu nos outils. Nos outils pour qu'ensuite, quand on fait des choses plus compliquées, c'est pas « Ah mince, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, c'est « Je sais que je peux poser une équation. » Et je sais poser une équation et je sais résoudre une équation. Ça va vite, hein. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Et donc l'idée, c'est effectivement de raisonner en notions, ces notions qui deviennent des outils pour l'élève qui ensuite va pouvoir un peu sortir quand il va être confronté, lui, à un problème qui va être plus complexe.
Et il faut qu'il fasse le lien, bien sûr, entre ces notions.
Super important.
Puisque les élèves ne font pas toujours
et ils font pas
le
parce
lien
que...
entre les différentes notions qu'ils ont apprises.
Et au-delà de... En fait, ils font même dans la manière d'enseigner, c'est-à-dire même dans le rapport à l'école, c'est ce qui est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend les maths pour avoir des bonnes notes. Enfin, on va à l'école aujourd'hui pour avoir des bonnes notes.
Mais alors, qu'est-ce que vous en faites, vous, des notes? Par quoi vous les remplacez? Parce que c'est bon, c'est...
Alors, là, moi, comme je n'ai pas de système de notation... La question ne se pose pas. Mais ça veut dire que moi, c'est assez marrant, quand les parents arrivent, je leur dis, écoutez, si votre objectif, en venant ici, c'est pour ça que je n'aime pas forcément le mot de centre de soutien scolaire, si ce que vous recherchez...
Ça fonctionne hein, en France.
Ouais.
Le centre de soutien scolaire, c'est un truc qui cartonne. Les Français sont alors consommateurs.
Mais oui, ils sont consommateurs. Et vous savez, l'un des premiers arguments de ces centres de soutien scolaire, c'est quoi? C'est, vous pourrez aller hein, sur leur site, c'est genre plus 4 points sur la moyenne.
Ouais. Et genre Académie, enfin j'en prends un au hasard parce que c'est le plus connu, c'est celui qui communique le plus qu'on voit partout.
Ouais. Ah, c'est, vous allez sur la page d'accueil, c'est plus 3 points, plus 4 points sur la moyenne.
Vous êtes l'anti-Académie, faut expliquer aux gens.
C'est... Peut-être.
Dans la méthode.
En fait, bon, Académia a des. D'une certaine manière, ils répondent à un marché. C'est-à-dire que dans le marché où l'objectif c'est d'individualiser, on va dire d'une certaine manière, l'enseignement, Académia vient répondre à un marché. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'il y a un problème avec l'école. Les parents sont hyper inquiets avec l'école. Ils se disent que eh ben il faut de l'aide. Donc Académia vient apporter cette aide.
Voilà.
Point final.
Alors vous, c'est quoi votre promesse client? Alors si c'est pas 4, plus 4 points, vous dites quoi aux parents?
Qu'est-ce que vous apportez? Moi ce que je dis, c'est que mon objectif principal, c'est d'avoir des élèves qui comprennent. Ça paraît bête, hein. Enfin, c'est d'avoir des élèves qui comprennent. C'est d'avoir des élèves qui soient capables de faire justement le lien avec les notions. C'est d'avoir des élèves qui acquièrent un vrai bagage mathématique. Un bagage mathématique qui va être nécessaire aujourd'hui, mais aussi demain. C'est-à-dire que, et cette mécanique, elle prend du temps. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, vous me ramenez n'importe quel petit qui a un contrôle, je le fais bachoter, je vous assure, il aura son plus 4 points sur la moyenne. Il l'aura. C'est-à-dire que je sais plus.
Oui, mais
ou
vous
moins.
Avez dit un mot affreux.
Ouais.
Bachoter.
Voilà. Ouais. Il faut bachoter. Et en fait, ce qui, moi, me rend dingue aujourd'hui, mais vraiment dingue. Alors attention, je ne dis pas que les notes sont pas entre guillemets importantes. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de noter les élèves. Mais moi, aujourd'hui, ce qui me rend dingue, c'est que la finalité de l'école, c'est justement pas ce que je suis en train de dire. C'est pas que l'élève comprenne. C'est pas que l'élève acquiert un bagage qui va être solide pour maintenant et pour la suite de ses études. Ce qui est important aujourd'hui dans le système actuel, c'est d'avoir des bonnes notes. Quand l'élève rentre de l'école, l'une des premières questions qu'on pose à notre enfant, c'est: t'as eu des notes aujourd'hui? C'est pas normal. Quand on demande à un élève pourquoi tu vas à l'école, il me dit je vais à l'école pour avoir des bonnes notes et après un bon travail. Non, c'est pas ça. On va à l'école pour apprendre, pour acquérir un bagage et pour en fait, finalement être suffisamment armé pour affronter le monde de demain. Être armé pour affronter le monde de demain, c'est pas justement avoir uniquement avoir un bon métier, mais c'est aussi être capable de vivre avec les autres, être capable de trouver des solutions, être capable d'avancer, de grandir. Et tout ça, en fait, ça, voilà, c'est, voilà, c'est, moi, c'est ça me rend dingue.
Vous avez été une bonne élève. Et ce que j'ai compris de votre histoire, c'est que vous avez été confronté à des problèmes de compréhension quand vous êtes arrivé en prépa. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre parcours? Qu'est-ce que vous ne compreniez pas?
Ça allait beaucoup trop vite. Ça veut dire que ce qui était devenu important, justement, c'était pas de comprendre. C'était d'absorber l'information et d'être capable de la restituer au moment où il fallait.
Ah, même pour une bonne élève, ça peut aller trop vite quand on est...
Mais en fait, on arrive tous à peu près à un moment donné, entre guillemets, à nos limites. Hein. Voilà, moi j'ai toujours eu besoin de prendre le temps. C'est-à-dire que moi, quand on me parle, je suis quelqu'un qui n'est pas spécialement spontané. Quand on me parle, j'ai besoin de réfléchir. Et en fait, jusqu'en terminale, j'ai toujours eu le temps, après un cours, de pouvoir me poser, de le reprendre, de réfléchir, de me questionner. Arrivé en prépa, en fait, c'était plus possible. On me donnait une masse d'informations. Et non, fallait juste l'absorber. C'est pas grave si t'as pas bien compris dans le fond. Fallait juste l'absorber. Et puis il y a aussi tout l'autre état d'esprit qui m'a étonnée, c'est que vous savez, enfin, il y a très peu d'élèves qui vont en prépa et soi-disant on est plutôt les bons élèves. Et je me souviens par exemple de cette remarque d'un prof de chimie, voilà, qui nous rendait nos fameux contrôles. J'étais dans une très bonne prépa. Okay. Il nous dit, bon, c'est ça le niveau de notre soi-disant élite française. Je suis sortie des 2 ans de prépa. Je pensais que j'étais nulle. Je me suis pris une claque sur la confiance en moi qui était juste dramatique. Et en fait, j'ai l'impression que le système est fait pour nous renvoyer à un moment donné cette image que oui, on est peut-être nul. Alors moi, c'est arrivé quand, à la fin de prépa. Donc, super, j'avais 19 ans. Mais en fait, il y en a, ça arrive quand ils ont 8 ans. Il y en a, ça leur arrive quand ils ont 10 ans. C'est en fait dans cette limite de voir jusqu'où on peut te pousser pour ensuite te renvoyer cette image d'être nul. Et bon, j'ai vraiment eu besoin d'un temps de reconstruction après la prépa. Enfin, j'ai pris du poids. Enfin, je veux dire, c'était...
Et vous avez cassé?
J'ai cassé.
Non, ils vous avaient cassé.
Complètement. Ouais. Complètement. Et quand je me dis qu'ils ont réussi à moi me casser, alors que sur le papier, effectivement, j'étais une élève brillante, j'ose même pas imaginer, en fait... Tout le monde.
Les autres. Ouais. Je vais prendre une image que vous évoquez dans votre livre. Vous dites que les maths, c'est comme une armoire bien rangée. Pourquoi ?
En tout cas, parce qu'en fait, si vous voulez, dans le bagage mathématique, on peut voir ça comme une armoire bien rangée. Il y en a qui vont un peu utiliser l'image du sac à dos. Pour moi, effectivement, les mathématiques, avant de se lancer dans des gros problèmes et puis dans des histoires d'abstraction et tout ça, pour moi, c'est avant tout des outils à maîtriser. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un élève, voilà, de faire un truc super compliqué s'il n'est même pas capable de résoudre x plus 1, par exemple, égale 3. Et donc, du coup, voilà. Et en fait, l'objectif, c'est au fur et à mesure de sa scolarité, remplir cette petite armoire avec les différents outils et être capable de savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que, voilà, quand on est face à un problème, de se dire, peut-être que le théorème de Pythagore pourrait être utile à cet endroit. Peut-être que le théorème de Thalès est plus pertinent. Et en fait, c'est d'abord être capable, effectivement, de savoir exactement quels sont les outils à notre disposition.
Des parents vous amènent demain un élève qui est bloqué en maths. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents ?
Alors, je lui réponds que l'objectif, c'est vraiment de travailler avec lui sur le moyen terme. Dans un premier temps, on va mettre de côté toutes les notes, toutes ces angoisses. On va vraiment se focaliser sur l'essentiel. C'est qu'effectivement, le petit... hein, comprennent, qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas si compliqué, qu'ils se rendent compte qu'il est capable de faire des petites choses. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, vous allez voir que c'est ce travail de fond qui est vraiment plus long. Hein. C'est-à-dire que, et c'est ça parfois qui est difficile à comprendre, c'est que ça prend du temps. Eh bien, forcément, à un moment donné, il va y avoir une répercussion parfois sur les notes. C'est juste que je n'ai pas en fait la main sur le temps. Pour certains, ça va être 2 mois. Pour certains, il me faut parfois une année complète. Pourquoi ? Parce que il va y avoir... Enfin, c'est très difficile de devoir défaire pour refaire. Donc du coup, il y a un moment donné, en plus, plus le blocage va être important, plus le blocage va s'inscrire sur la durée, plus l'effort va être difficile. Et pour moi, c'est fondamental que les parents soient alignés avec nous. C'est-à-dire que si nous, on arrive en disant, bon, écoutez, on va travailler sur le moyen terme pour faire sauter ces blocages et faire en sorte qu'ils se rendent compte que c'est possible, si en parallèle, on a le parent qui est là à mettre une forme de pression, on n'y arrivera pas. Donc la première chose, c'est vraiment qu'on soit tous alignés et d'être OK sur le principe que ce qui est fondamental dans un premier temps, vraiment dans un premier temps, c'est que l'élève, en tout cas, reprenne vraiment confiance en lui.
Alors, on rappelle le titre de votre livre, c'est « Tout le monde peut être bon en maths chez Marabout ». Alors, la plateforme, comment on vous trouve ?
Alors, il faut aller tout simplement sur le site défialpha.fr. Hein, donc, défialpha, c'est D-P-H-I-A-L-P-H-A. Et du coup, eh bien, dedans, vous allez retrouver les livres et on retrouve également donc l'accès à la plateforme. La plateforme, c'est pour moi, j'ai mis dedans, il y a tout mon savoir. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que tout ce que moi je sais, tout ce que moi j'ai compris, tout ce que moi j'ai appris, en tout cas donc de la sixième à la terminale, on n'a pas encore fait le primaire parce que j'y réfléchis et ça prend du temps, j'ai mis dedans absolument tout ce que je sais. Donc ça veut dire que si un élève, pour moi, il est capable de suivre la plateforme et vraiment dans l'ordre indiqué, parce qu'il y a quand même sur l'intégralité, il y a 1500 vidéos, ouais. Enfin, je veux dire, c'est quand même un travail. C'est pas une plateforme où on va juste la veille du contrôle pour s'entraîner. Ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment une plateforme où il faut le voir un peu comme un cours particulier, hein. Mais voilà, c'est-à-dire que souvent je dis aux parents, prenez un créneau fixe dans la semaine, un peu comme s'ils venaient en cours avec nous, et ils suivent les exercices dans l'ordre indiqué. Parce que pour vous dire, c'est exactement ce que nous faisons en classe, dans la structure, qui a été retranscrit sur la plateforme. Mais au lieu d'avoir donc un prof qui va venir donc expliquer, ben ce prof c'est moi. C'est-à-dire que j'ai fait l'intégralité des 1500 vidéos sur la plateforme et j'explique aux je donne aux élèves vraiment tout ce que je sais. Donc pour moi, un petit qui le suit, un petit qui travaille sérieusement, eh ben il a dedans tous les outils pour y arriver.
Amina Khalil, merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre passion des maths et de la vie. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci de nous avoir prêté vos oreilles. Merci. Et passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.